Chers frères et sœurs, dimanche passé, nous avons célébré la fête de Christ Roi. Nous avons souligné en fait ce que nous attendons, nous chrétiens, le retour du Christ pour être installé, instauré comme roi de tout l'univers. Et ça, c'est notre espérance. Mais notre liturgie a ces deux axes. L'axe principal, justement, c'est ça. Ce que nous espérons, le retour du Christ comme roi. Et l'axe de base, c'est en fait ce temps de préparation où sur la terre nous marchons. Comme des moments clés, d'abord, premièrement, à cause de cela, nous sommes invités à prendre part à la royauté du Christ. Nous sommes appelés. Le premier moment, c'est l'appel. Dieu nous appelle. On appelle cela dans le langage courant, le recrutement. Nous avons été recrutés par notre baptême. Nous avons été recrutés comme dans une armée, comme dans n'importe quoi. On est recruté d'abord. Les gens viennent librement, ils donnent leur nom et alors ils donnent leur adhésion à la cause. Et nous, notre cause, c'est le royaume de Dieu, le retour de Christ comme roi. Nous sommes recrutés par l'appel, par notre baptême. Nous avons dit oui, que nous adhérons à cette cause. Le recrutement seul ne suffit pas. Après le recrutement, il y a ce moment important qu'on appelle l'entraînement. Quand les gens sont recrutés, on les entraîne. Ceux qui doivent, par exemple, travailler au niveau de l'administration, on les entraîne dans des postes administratifs. Ceux qui travaillent au niveau financier, on les entraîne dans des postes comptables. Ceux qui travaillent au niveau de l'entraînement militaire, on les entraîne à manier les armes et à leur donner le principe de sécurité qui concerne leur entraînement. Donc, après le recrutement, il y a ce moment d'entraînement. Et pendant le moment d'entraînement, le tout va jouer dans la façon dont nous allons nous comporter après avoir subi l'entraînement. C'est-à-dire, après l'entraînement, il y a des attentes. On attend de nous quelque chose. Vous êtes dans l'armée, on attend de vous que vous puissiez vous comporter comme un bon soldat. On va vous faire passer des exercices difficiles, durs. On va créer des simulations, des endroits où parfois vous avez l'impression que vous êtes dans un moment de combat réel. On doit vous mettre dans cet esprit-là pour que vous ayez un bon comportement, que vous ayez de bonnes attitudes, de bons réflexes. De la même façon, quand on vous entraîne au niveau médical, quand on vous entraîne au niveau à l'hôpital, on va vous apprendre d'abord avec quelqu'un qui est déjà expérimenté, il va vous coacher comment, n'est-ce pas, faire, donner, voir le malade, quel rapport, les relations avec le malade, et en même temps aussi comment donner les médicaments. Et vous apprenez progressivement, quand on devient médecin, comment diagnostiquer une maladie. Donc vous apprenez l'art de ce que vous devez devenir. Après, on attend de vous un comportement qui est ajusté en fonction de votre formation, de votre entraînement. C'est pour cela que la deuxième lecture nous dit cela, que vous savez comment vous comporter pour plaire à Dieu. Dans notre entraînement en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous recherchons, c'est que notre comportement puisse refléter ce que nous recevons. Nous recevons à chaque Eucharistie deux choses. Premièrement, la parole. La parole de Dieu nous est donnée pour nous faire prendre conscience, en fait, sur quoi nous devons nous entraîner. La parole de Dieu nous dit, et voilà des choses, notre amour doit être un amour qui dépasse l'amour du monde. Un amour qui n'est pas égoïste, un amour qui ne se vante pas, un amour qui ne blesse pas. On nous dit comment doit être l'amour des enfants de Dieu. C'est ça notre entraînement. Et c'est pour cela que sur notre chemin, Dieu va mettre des gens que nous n'avons pas toujours choisis. Il va mettre des gens avec de bons caractères, mais il va mettre aussi des gens avec des caractères de cochon. Ces gens-là sont importants dans notre entraînement. Parce que c'est cela. Nous en avons besoin pour développer un réflexe, pour développer la patience, pour développer la bonté, pour développer le pardon, l'esprit de pardon. Nous avons besoin de ces gens-là, parfois, qui ont un caractère difficile. Ça fait partie de notre entraînement sur la terre. Et on le voit, le Seigneur attend de nous au niveau des attitudes, des qualités que nous devons développer. La bonté, l'amabilité, n'est-ce pas, la compassion, l'esprit filial. nous devons développer de bonnes relations, l'esprit de pardon entre nous. On attend de nous après l'entraînement cela. C'est pour cela qu'il y a eu un moment de formation, d'entraînement, le catéchisme, le moment de l'enseignement avec la parole de Dieu. C'est pour qu'à un moment donné, nous soyons bien formés pour refléter la gloire de Dieu dans notre vie de tous les jours. Vous voyez, chers frères et sœurs, la deuxième lecture nous parle de cela. Comment vous comporter pour plaire à Dieu? Si vous faites déjà cela, maintenant, le temps de l'avant, c'est le temps où vous devez maintenant faire encore de progrès. Aller de l'avant. Jusqu'à ce qu'on peut dire à un moment donné que où est le Christ? C'est quand je vois cette personne, je vois le Christ. C'est ça qu'on attend de nous. Que nous puissions incarner ce que le monde attend. Voir la révélation de fils et de filles de Dieu. Je disais ce matin que hier j'ai signé une lettre d'une dame qui était baptisée à la paroisse Saint-Dominique. Et cette dame a écrit une lettre pour demander l'apostasie et l'excommunication. En d'autres termes, pour demander l'annulation de sa foi en Dieu, en l'Église, mais aussi d'être exclue de l'Église. Et dans la lettre, elle dit ceci, que après avoir été baptisée dans l'Église catholique, après avoir fréquenté cette église, j'ai réalisé en grandissant que l'église ne m'a pas apporté grand-chose. Au contraire, j'ai été souvent blessé même à l'intérieur de l'église. Elle dit, j'ai été obligé de quitter l'église catholique pour aller dans une église pentecôtiste. Et là encore, j'ai vécu la même chose. On préférait sauver les doctrines, le principe, plutôt que de sauver l'être humain. À cause de tout cela, je choisis de devenir athée. Je ne veux plus croire ni en Dieu, ni en l'Église. Alors je vous demande de rayer mon nom dans tous les registres où mon nom figure et en même temps aussi de me signifier clairement que je ne fais plus partie de votre Église. Alors hier, donc, j'ai écrit la lettre pour signifier, pas hier, vendredi, pour signifier à cette madame qu'on venait de rayer son nom dans nos registres et qu'elle était effectivement excommuniée. Mais pour poser ma signature sur cette lettre, je dois vous avouer, vraiment mon cœur a saigné. J'ai pleuré au-dedans de moi-même. Comment les gens qui ont été baptisés dans l'Église, qui ont accueilli la parole de Dieu, qui ont été entourés par des frères et des sœurs, peuvent en arriver là à renier Dieu et à renier l'Église. En fait, à renier le Dieu que nous leur avons révélé et à renier l'Église qui est la communauté, le corps, tel qu'elle se manifeste comme corps de Christ. L'importance de faire attention à notre comportement. Ce que l'Esprit Saint vient donner à nous, c'est le caractère des enfants de Dieu, l'ADN des enfants de Dieu. Quand les gens nous regardent, la Bible dit « Revêtez-vous du Christ ». Quand ils nous voient, en nous voyant, ils peuvent dire « Voilà, il a telle couleur » parce qu'il a revêtu cela comme un habit. Quand nous nous revêtons du Christ, et c'est le travail que nous avons à faire pendant tout ce temps de l'Avent, nous l'avons dit, nous allons demeurer avec le thème de l'année. Christ est vraiment tout pour moi, pour nous, pour moi. Que le Christ puisse être tout dans ma vie et que je puisse le refléter, que les gens puissent voir à travers ma couleur spirituelle que vraiment le Christ est en moi. Il est en moi, dans mon regard, le Christ est là, dans mon langage, le Christ est là, dans mes comportements, mes agirs, le Christ est là. Dans ma façon de vivre ma relation avec les autres, le Christ est là. Qu'on puisse voir que cet homme est vraiment un homme de Dieu. Cette femme, c'est vraiment une femme de Dieu. C'est quelqu'un où la parole, que la parole a transformé et on peut voir Dieu en lui. On peut voir la bonté de Dieu en lui. On peut voir l'amour de Dieu en lui. On peut voir la fidélité de Dieu en cet homme ou en cette personne.
La parole de Dieu nous est donnée, chers frères et sœurs, pour toucher notre caractère. Voilà pourquoi le temps de l'Avent revient dans un cycle pour que nous puissions nous préparer. Préparer quoi? Notre cœur. Préparer quoi? Nos pensées, comme je le disais ce matin. Parce que tout commence par la pensée. La façon dont nous nourrissons notre pensée se reflète dans notre langage. Parle-moi. Quand je t'entends parler, je peux dire quel type de chrétien tu es. Il y a des gens, c'est simple. Tu les entends parler, tu sais déjà dans quel monde ils vivent. Notre pensée doit être bien nourrie. Quand notre pensée est bien nourrie par les choses de l'esprit, ça se reflète dans notre langage. Nous parlons différemment. Et alors, à force de parler différemment, ça affecte notre caractère. Nous commençons à nous comporter en fonction de ce que nous déclarons. Le caractère devient la conséquence de nos paroles. Les paroles deviennent la conséquence, en fait, la conséquence de notre pensée. Et la pensée est la conséquence de la nourriture. Comment nous nourrissons notre pensée? Mais la parole de Dieu nous est donnée pendant ce temps pour nourrir notre pensée, pour qu'elle soit capable de donner un langage qui correspond à ce que nous croyons et qu'elle puisse être capable de donner un comportement, un caractère qui correspond aussi à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, nous sommes invités à cela, à prendre garde, parce que nous sommes encore dans le monde, mais ce monde, nous l'avons entendu dans l'Évangile, va être fracassé. Ce monde, c'est pourquoi? Parce que ce monde est entré dans une période de rébellion. En d'autres termes, on dirait dans une course effrénée dans le monde, en train de vivre tout ce que Dieu propose comme valeur, le monde le vit comme contre-valeur. Tu vas dans un restaurant et puis tu dis aux gens, bon, nous on va prier avant le repas, vous vous mettez juste à prier, tout le monde se retourne pour vous regarder comme si vous étiez des extraterrestres. Parce que ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Vous, le fait de le faire, vous êtes en opposition avec la pensée de tout le monde. Ce qui sont des valeurs que nous professons, le monde le présente comme des contre-valeurs. Mais si vous allez dans un restaurant, à haute voix là, vous commencez à sacrer comme vous voulez, les gens vont vous regarder et dire, ah, voilà au moins quelqu'un qui est bien intégré dans notre culture. Ce qui est contre-valeur dans le monde, ça s'oppose, c'est le monde de rébellion. On le voit à tous les niveaux. Aujourd'hui, parler de l'amour aux jeunes, ils ne comprennent pas ce que c'est l'amour. L'amour est limité au sexe. C'est ça l'amour. Nous vivons dans un monde de rébellion. Le monde de rébellion. Parler aux gens aujourd'hui de mariage, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, ce sont des couples qui s'entendent pour vivre comme ils veulent. La jouissance a pris le nom de l'amour, la jouissance a pris le nom du mariage. Le monde est en rébellion dans sa façon d'être parce qu'il est tourné vers l'ego, l'égoïsme. Tant que ça me satisfait, moi, alors tout est permis. On peut se permettre n'importe quoi parce que moi, je suis satisfait. Voilà notre monde. Et c'est ce monde-là, dans la pensée de Dieu, qui doit être détruit pour que Jésus vienne régner comme roi. Et la parole de Dieu nous dit, faites attention dans ce monde, que vous ne puissiez pas être alourdi, que votre cœur ne s'alourdisse pas dans le beuverie, dans l'ivresse, et le souci de ce monde, et la passion de ce monde. Nous avons besoin d'être attentifs, et le temps de l'Avent, ce temps-là qui nous invite justement à faire attention dans notre façon d'être, avec qui nous entrons en relation. C'est un monde hostile aux affaires de Dieu. Nous devons faire des choix qui déterminent notre destinée. Nous allons prier ce matin, chers frères et sœurs. En ce début de l'Avent, comme je le disais ce matin, ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas d'abord l'extérieur. La crèche, on l'a chaque année. La crèche, on l'a chaque année. Vous n'aurez jamais un salut avec la crèche. C'est une représentation. Les décors, on les aura chaque année. Vous n'aurez jamais le salut avec les décors. Le salut va dépendre de la façon dont votre cœur se dispose à rencontrer Jésus-Christ. Le salut est dans une relation, ce n'est pas à l'extérieur de nous, c'est dans une relation. Tout ça doit nous amener à rencontrer celui qui vient dans notre cœur, d'abord et dans notre vie ensuite. Donc ne nous distrayons pas avec tout ce qui est extérieur, revenons à l'essentiel, Jésus-Christ qui veut être le roi de notre vie, le roi de notre maison, le roi de notre communauté. Il vient non pas pour nous détruire, il vient non pas pour nous condamner, il vient pour nous dévoiler le projet de Dieu qui est un projet de bonheur et de paix. Il vient pour nous dire « Heureux êtes-vous ». Il vient pour nous donner un message de bonheur. Il dit « Réjouissez-vous ». Il vient nous donner un message de joie. Il dit « Aimez-vous ». Il vient nous donner un message d'amour. Ce royaume de Jésus, c'est pour notre bien en réalité. Alors demandons cette grâce que pendant ce temps de l'Avent, cette année, que nous puissions la vivre différemment. Que nous puissions vivre ce temps de l'Avent différemment. D'abord au niveau de notre cœur. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables parce que nous sommes souvent distraits. Demandons l'Esprit de Dieu qui vienne vraiment nous ramener à l'essentiel de ce temps de l'Avent qui est en fait Jésus lui-même. Amen.